Et après l'actu, on passe maintenant aux associations. Dans chaque émission, vous le savez, on met en lumière une association de Lyon. Et pour ce troisième numéro, c'est l'Antenne Lyonnaise, une association qui propose hébergement et accompagnement à des jeunes en situation de rupture familiale du fait de l'annonce de leur homosexualité ou de leur problématique transidentitaire, le Refuge. Le Refuge, à Lyon, c'est un local d'accueil de jour, 4 appartements relais, une ligne d'écoute, appel et SMS, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un poste de conseillère en économie sociale et familiale, un poste de psychologue à mi-temps, à quoi il faut rajouter 6000 heures de bénévolat, c'est-à-dire près de 4 emplois du temps à temps plein. Bref, ça rigole pas. Hein, une action qui est d'autant plus nécessaire que chaque année, 30% des homosexuels de moins de 25 ans tentent de se suicider, selon un rapport rendu au Sénat en 2013. Et à 64%, les raisons de leur geste de désespoir, c'est la précarité et la peur de se confronter au regard des autres et principalement celui de leurs proches. Et pour parler de tout ça, eh bien oui, elles sont là, vous les avez entendues. Surtout Julie, qui était brillante. Elles sont bien placées pour représenter aujourd'hui le Refuge sur les ondes de Transistor, puisque Julie est responsable communication et Myriam est l'ancienne déléguée régionale, aujourd'hui bénévole au sein du pôle subvention. Mais avant de commencer l'interview, voici le Refuge, ou plutôt son association lyonnaise en quelques autres chiffres, grâce à la fiche signalétique de l'association.
La fondation de l'antenne du Refuge à Lyon
a eu lieu en janvier 2011.
Elle est composée d'un certain nombre de membres,
35 précisément,
et a un budget de...
assez rond, de 85 000 euros.
Alors pendant les interviews, chers auditeurs, vous le savez, on écoute des extraits de la scène musicale lyonnaise et on commence avec un voisin, natif de Villefranche-sur-Saône, Benjamin Biolay, et « Si tu suis mon regard », en pied noir évidemment, Benjamin Biolay et « Si tu suis mon regard », et si vous tendez l'oreille, chers auditeurs, vous risquez de l'entendre.
Si tu suis mon regard, tu verras des doutes, des gens qui partent tard, tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et commence chez moi. Si tu suis mon regard, tu verras des plaines, des taxis, des gares, gares, gares à la migraine. Tu verras tout vermeil.
En fait, est-ce qu'on pourrait remettre l'hymne de l'OL? C'est, enfin, je... tout. Ce serait mieux. Même une version étendue et tout. Enfin, moi, je suis prêt.
Tu peux la faire au micro, non?
Je connais pas, mais ça, c'est trop
dur. Un peu sérieux autour de la table. Mépris, insultes, violence physique, rupture totale, il n'y a rien de drôle là. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui en 2014 quand un ou une jeune annonce à sa famille, à ses amis, son homosexualité, sa bisexualité ou ses questionnements transgenres. Et c'est pour aider ces jeunes-là que le Refuge trouve sa raison d'être et vous les aider, Julie et Myriam, de deux façons, principalement hébergement et accompagnement. L'hébergement d'abord, je le disais tout à l'heure, parce que quand un jeune LGBT il est dans la rue, l'action du Refuge c'est d'abord de lui fournir un toit de façon temporaire, c'est ça, hein ?
Oui, en fait, les jeunes, du coup, quand ils sont dans une situation d'exclusion, qu'ils sont dans la rue, qu'ils n'ont pas de logement, nous on leur propose un hébergement temporaire. Qui peut aller jusqu'à 6 mois, reconductible si besoin. Et du coup, après, on les aide à retrouver un emploi et par la suite un logement. Du coup,
alors Myriam, hébergement rime avec responsabilité et surtout pas avec gratuité, n'est-ce pas, hein? Vous faites un peu payer
en fait,
symboliquement.
Complètement. On a un barème de paiement des loyers, c'est participation en fait, aux frais d'hébergement. Qui est de 25 euros minimum par mois. Donc, sachant que ces jeunes peuvent solliciter l'aide du CCAS du 9e arrondissement pour obtenir un phage. Donc, même s'ils n'ont pas de ressources, ils ont la possibilité de solliciter une aide. Et en fait, ce système est mis en place pour les responsabiliser et puis aussi par respect pour leur dignité, puisque c'est jamais très facile d'être en position de celui qui demande. Et donc, en contribuant, même si ça reste assez symbolique hein, par rapport au logement dont ils bénéficient, ça leur permet quand même de participer.
Oui, parce que le Refuge, c'est pas un hôtel et on entend bien quand vous parlez de responsabilité, il y a bien cette idée d'accompagnement aussi qu'il y a derrière. Et alors Julie, les jeunes LGBT, vous les accompagnez, mais j'ai envie de dire totalement, parce que c'est social, médical, juridique, économique, vie quotidienne, c'est tout quoi.
Oui, complètement. Le but en fait, c'est de leur redonner un cadre, de le responsabiliser pour qu'ensuite ils puissent justement se débrouiller tout seuls. Et donc, ça passe par faire des bilans de santé, des bilans sur où ils en sont au niveau de leur formation, et refaire un CV, refaire des lettres de motivation. Enfin, l'accompagnement est complètement total dans le but, justement, de repartir à zéro et de recommencer, de se reconstruire, en fait.
Accompagnement juridique aussi, Myriam ?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a des partenaires au niveau de Lyon qui peuvent aider ces jeunes. On a aussi un avocat qui est bénévole pour l'association au niveau national, donc qui ponctuellement aide les jeunes sur des cas très particuliers. Donc, en fait, on essaye, quand le jeune arrive, de faire un bilan, en fait, sur sa situation, qu'elle soit scolaire, au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau de ses ennuis juridique, puisqu'il arrive que certains arrivent avec un passif qui n'est pas simple. Donc on essaye de démêler tout ça et de faire en sorte que pendant les mois qu'il va passer avec nous, il va pouvoir régler un certain nombre de choses et repartir sur un bon pied.
Alors ce qui est important aussi, cet accompagnement personnalisé, il se double aussi en amont d'actions pour prévenir contre la transphobie, contre l'homophobie. Et c'est pour ça que vous intervenez notamment dans des établissements scolaires. Alors comment ça marche et surtout, est-ce que ça marche ?
Récemment d'ailleurs, on a eu l'agrément par l'État pour pouvoir le faire, parce que c'est vrai qu'on n'était pas agréé avant, donc c'était plus difficile de pouvoir intervenir. Et du coup, on intervient dans les lycées.
Alors concrètement, vous faites quoi ?
Voilà une présentation en fait de la problématique de l'homophobie. Donc on essaie d'expliquer comment le mécanisme de l'homophobie, de quoi il découle en fait. Et puis on essaie de combattre les idées reçues.
Les stéréotypes. Pensez que ça marche ? Quand vous êtes en face du public étudiant, vous avez cette bonne impression que oui
Ça génère des fois des réactions très violentes, puisque en fait il y a un échange qui se fait entre les intervenants et puis le public lycéen ou collégien, je crois que ce n'est pas encore le cas. Parfois il y a des réactions comme ça qui peuvent être très virulentes, mais à la fois il y a aussi des manifestations de reconnaissance de certains de ces étudiants qui se sentent isolés parce qu'ils peuvent pas parler de leur homosexualité avec leurs camarades de classe et qui sont quand même assez contents qu'il y ait un intervenant extérieur qui arrive et qui pose certains sujets. Ça, du coup, ça soulève des questionnements entre eux après, ça leur permet d'en parler avec leurs camarades ou simplement de sentir que s'ils subissent de l'homophobie, c'est pas quelque chose de normal en tout cas.
Sa gorge, elle étouffe ses pleurs. Quand il parle, il crache la plus profonde de ses rancœurs. Tout ce qu'il propose, c'est cette phrase tout en douceur. Va vérifier dans l'Égypte les dictons pleurs, tu pisseras mou. Puis la serre dans ses bras, l'arrêtant à mi-chemin. Je m'excuse, je t'aime, arrête ce chagrin. Tu sais bien que la bohème, c'est parfois.
L'artiste préféré de Florent, hein, Buridan à l'instant sur Transistor, et une chanson...
C'est quand même bien mieux que Biolay, enfin je...
Une chanson hélas de circonstance, c'est toi qui me la suggérais d'ailleurs, n'est-ce pas ? La dispute. Et une question polémique maintenant, Julie et Myriam. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent le refuge et qui disent « Oui, mais c'est facile, c'est une association communautaire, communautariste, voire sectaire. » Vous leur dites quoi à ces gens-là ?
C'est vrai qu'on peut se poser la question de la nécessité d'une association comme la nôtre, parce que finalement, des associations qui aident des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont isolés ou qui sont en rupture sociale, il en existe plein. Donc pourquoi avoir créé une association spécifiquement dédiée aux homosexuels ou aux transsexuels ? Donc la raison, elle est simple. Elle est double. La première chose, c'est que c'est déjà une population qui est stigmatisée, qui est marginalisée. Donc si vous mettez ces personnes-là dans des structures qui accueillent des profils très divers, ça amplifie en fait ce sentiment d'exclusion. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les personnes qui travaillent dans ces autres structures, même si elles font très bien leur travail, ne sont pas formées aux problématiques spécifiques de l'homophobie ou de la transphobie. Et du coup, ça donne son sens à une association comme la nôtre, parce qu'on ne parle pas toute la journée de l'homosexualité avec les jeunes du refuge, mais simplement, on intègre le fait qu'ils soient homosexuels ou qu'ils soient en transition. Et ça ne pose pas de soucis. Ils sont très contents de nous montrer de temps en temps la photo de leur petite amie ou de leur petite amie sur leur portable.
Alors, sectaire ou pas, le refuge ?
Moi, je réponds clairement non, on n'est pas du tout sectaire. D'ailleurs, la composition des bénévoles au Refuge de Lyon, et c'est représentatif de ce qui se passe au niveau national, est très éclectique. On a des profils très, très différents. On a aussi bien des hétéros, des bi, des homos, des garçons, des filles, des jeunes, des vieux. Voilà.
Donc, alors, polémique pas... à part, hein, j'ai lu des témoignages sur votre site, d'ailleurs très émouvants, de jeunes qui décrivent l'extrême violence hein, de leurs proches à leur égard, et qui vous remercient de votre aide. Donc déjà, je pense que quand on lit ces choses-là et qu'on fait partie du refuge, on est forcément touché. Et ils disent souvent avoir trouvé une famille au refuge. Alors c'est très beau, mais en même temps, est-ce que votre travail, c'est pas aussi d'essayer de renouer le contact avec leur famille d'origine, de faire que ce contact puisse un jour renaître ?
Alors, en fait, par rapport à la famille, c'est vrai que quand les jeunes arrivent au refuge, généralement, ce lien, il est coupé depuis longtemps. Puisque en fait, entre le moment de la rupture, c'est-à-dire clairement le moment où ils ont été foutus dehors et le moment où ils nous arrivent, il peut s'être écoulé beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas si évident. Ils sont chez nous pour une période de 6 mois. En moyenne, en réalité, c'est plutôt 3 mois. Donc, ce n'est quand même pas si évident de régler tous leurs problèmes. Et puis, les questions de rapports familiaux sont quand même très complexes. Et on n'a pas la prétention d'avoir une baguette magique. On aimerait hein, pouvoir les aider à résoudre ça, mais c'est quand même assez difficile.
Oui, parce que Julie, en lisant vos témoignages, c'est extrême la violence qui peut tout d'un coup tomber sur un jeune qui avoue comme ça, alors que ça devrait pas être un aveu d'ailleurs, ouais, non, son homosexualité, ses problématiques transgenres.
Oui, non, c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est vraiment des situations souvent très extrêmes. Donc, comme le disait Myriam, généralement la situation est complètement rompue avec la famille. Mais après, ça arrive aussi qu'il y a des jeunes qui renouent des liens. Ça peut arriver que après ils arrivent à se reconstruire et du coup les parents aussi ça se remet en place. Mais après, il y a aussi l'association Contact qui est dans notre local, qui elle est plus spécifiée dans les relations parents
et médiation
enfants. Ouais, la médiation familiale, nous, ce n'est pas notre point central, en fait. On est pas...
Oui, parce que parfois, des parents peuvent réagir violemment et puis après, réviser leur position, on va dire. Parfois, il faut savoir pardonner. Sophie Tite reprend « Sorry seems to be the hardest word ».
It's sad, it's so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word.
Alors, ce qui est paradoxal un petit peu hein, dans cette situation, Myriam et Julie, c'est qu'on pourrait avoir l'impression qu'aujourd'hui, l'homosexualité est quand même voilà, bien acceptée, bien ancrée dans la société. Pourtant, bah, quand je regarde les chiffres hein, de votre dossier de presse, on constate que c'est évidemment tout le contraire. On fait de plus en plus appel à vous, hein, à Lyon, puisqu'entre 2011 et 2013, on est passé de 57 demandes à 137, soit une augmentation d'environ 140%. Oui, j'ai fait elle, mais j'ai appris à faire des pourcentages. La France, elle est de plus en plus homophobe ?
La France n'est peut-être pas de plus en plus homophobe, mais je pense qu'elle a peut-être plus montré son homophobie à travers, par exemple, le mouvement de la Manif pour tous avec la question sur le mariage homosexuel. C'était des homophobies qui étaient peut-être ancrées, mais qu'on n'avait pas l'occasion de montrer dans la société. Et ça a permis de libérer quand même une certaine parole homophobe dans la société. Et du coup, les jeunes qui n'étaient pas forcément concernés ont vu leurs parents défiler ou leurs familles se prononcer sur ces sujets. Et du coup, ça a aussi augmenté. Enfin, y a une,
vous l'avez constaté, il y a eu un lien direct entre eux.
Pendant toute la période des manifs pour tous, la ligne d'urgence avait à peu près 3 fois plus d'appels qu'en temps normal.
Alors, pour lutter contre cette homophobie, cette transphobie, est-ce que vous êtes plutôt contente de ce geste, de ce pas, alors timide, hein, que vient de faire le pape François vers les homosexuels en parlant, je cite, hein, des dons et des qualités que les personnes homosexuelles ont à offrir à la communauté chrétienne ? Vous pensez que ça va dans le bon sens ? Dans le sens de lutter contre l'homophobie ? Ou pas ?
Ça reste le pape. Après, forcément, il est obligé de se tenir à une certaine position puisqu'il représente l'Église. Et forcément, c'est vrai qu'au niveau religion, c'est pas recommandé d'être homosexuel. Mais c'est vrai que s'il commence à se positionner sur ce genre de choses, c'est peut-être un premier pas, mais c'est pas...
Oui, c'est quand même un message d'ouverture, même si voilà, faut mettre les choses entre guillemets et relativiser beaucoup les choses. Mais ça peut avoir peut-être un impact justement sur la communauté catholique qui est...
Un gone qui veut réagir
Par rapport à Benoît XVI, redevenu Ratzinger, c'est quand même c'est quand même un gros pas en avant, parce que lui, il était vraiment, enfin, il refusait même d'en parler, tout en refusant d'évoquer les problèmes de, enfin, d'autres problèmes de l'Église. Enfin, c'était vraiment tabou comme sujet. Donc,
enfin, déjà en parler, c'est déjà, c'est sûr, c'est déjà une grande ouverture.
Surtout en parler, pas seulement pour dire qu'ils doivent être
condamnés,
être condamnés et ne pas rentrer dans les églises et.
Alors, on parle de vos actions depuis tout à l'heure au refuge. Et je vais citer des villes: Paris, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Saint-Denis-la-Réunion, Toulouse, Montpellier, Marseille. Alors non, chers auditeurs, ce n'est pas le dernier classement de têtu des villes gay-friendly. C'est la liste des délégations du refuge en France. Donc, si je suis bien, ça veut dire que si je suis lesbienne à Quimper ou si je suis bi à Chartres, ben, je me débrouille tout seul, quoi.
Alors pas du tout, parce qu'en fait on accueille des jeunes qui viennent de partout en France, y compris des DOM. Alors déjà parce qu'effectivement il n'y a pas d'antenne du refuge partout. Alors on peut espérer qu'avec le temps les choses se développent et que ça puisse être représenté de façon plus égalitaire sur le territoire. Mais il y a aussi le fait que pour certains jeunes c'est une nécessité de s'éloigner de leur milieu d'origine. Parce qu'ils sont, pour certains, on a eu le cas à Lyon, on a hébergé une jeune fille qui était en danger de mort parce que sa famille voulait la liquider parce qu'elle était lesbienne, et donc dans son cas, il était plutôt recommandé qu'elle soit éloignée de son.
Mais on parle de violence, chers auditeurs, là on touche quand même au summum. On parle de ville depuis tout à l'heure, mais vous n'allez pas me contredire si je vous dis qu'à la campagne, c'est encore plus compliqué d'être homosexuel parce qu'il y a moins de référents identitaires, il y a aussi le problème de la mobilité. Vous faites quelque chose en campagne, en milieu rural, vous avez des actions?
Alors actuellement, au niveau de Rhône-Alpes, on a un groupe de travail. Alors, c'est pas encore une antenne, c'est un groupe de travail en Ardèche avec quelqu'un qui fait des interventions en milieu scolaire et je salue Cathy Devignard d'ailleurs pour ce travail parce qu'elle est toute seule et elle porte une grosse responsabilité là-bas. C'est quelque chose qu'on essaye d'étendre au niveau de notre région. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de la délégation de Lyon. En réalité, on est de la délégation Rhône-Alpes.
Oui.
Alors c'est vrai que nos activités sont centralisées sur Lyon, mais vraiment on a pour objectif d'essayer de toucher tout le territoire.
J'interroge le ciel en vidant ma bouteille. Pour sortir de l'auberge, il faut trouver la clé. Il faut trouver la clé.
Pro Homme à l'instant sur Transistor et un extrait de Ne plus y penser. Alors avant de ne plus y penser, cette interview, Julie et Myriam, dernière question avant de vous laisser entre les griffes des gones, et c'est un rituel. Chacune en quelques mots, dites-moi ce que représente pour vous l'engagement associatif.
J'avais vraiment envie de m'engager dans quelque chose de concret et pas uniquement de faire de la sensibilisation sur le thème de l'homosexualité. Et du coup, c'est vrai qu'être confrontée à des situations de jeunes qui sont vraiment exclus socialement et de pouvoir se sentir utile en pouvant les aider et les accompagner à leur vie.
Alors, concret, utile, voilà. Est-ce que c'est des mots que tu partages, que tu en mettrais d'autres, Myriam?
Oui, complètement. Moi, ce qui me plaît dans le refuge, c'est que ce n'est pas une association militante, même si c'est important de défendre les droits des homosexuels. C'est vraiment quelque chose de concret. On apporte une aide matérielle, un soutien aussi psychologique. Et quand on voit le résultat que ça produit sur des jeunes qui nous arrivent complètement recroquevillés sur eux, qui n'ont absolument confiance en personne, et quand on voit la relation de confiance qu'on arrive à établir en quelques mois, et le travail qu'ils font, c'est la plus belle des récompenses qu'on ait.
Très bien, maintenant je vais vous laisser face à mes gones. Je vous préviens, le premier contact peut être rude, leurs questions sont provocantes, absurdes, décalées, stupides, mais ils vous les posent quand même.
Alors, donc vous avez dit que vous accueillez des jeunes de 18 à 25 ans, donc vous avez vraiment des limites d'âge précises, pas comme les auberges de jeunesse au 21e siècle par exemple. Ça vous arrive de réorienter parfois des jeunes qui sont un petit peu plus âgés, on a 26 ans, ou plus jeunes, oui.
Il y a d'autres structures qui existent pour les personnes plus âgées, donc c'est vrai que s'ils frappent à notre porte, on les réoriente, on va pas leur dire non, nous c'est 25 ans, arrête-toi là et débrouille-toi, enfin c'est vrai que... on les réoriente vers d'autres structures.
Vous avez quelques noms, ça peut être intéressant.
Alors, il y a l'Auréa JD, notamment à Lyon, qui propose l'hébergement. Et puis, après, voilà, c'est généralement le 115 qui est en capacité d'offrir une solution d'urgence en cas de galère. Mais c'est vrai que le principe de l'association, c'est toujours de réorienter, quelle que soit la nature de la demande, de réorienter la personne vers la bonne structure. Et il nous arrive de déborder de 25 ans. On a déjà eu des jeunes jusqu'à 27 ans à Lyon. On ne prend pas de mineurs si on est sollicité directement par le mineur. Par contre, il y a des décisions de justice, des juges pour enfants qui font des placements de mineurs au refuge. Alors, on n'a pas eu le cas à Lyon encore, mais dans d'autres délégations, ça a été le cas.
Florent, alors
Ouais, vous avez dit qu'il y avait un lien direct entre les actions du refuge, enfin la demande d'action du refuge et la manif pour tous. Et justement, on est à Lyon, qui a été une des villes quand même bien, bien en pointe, enfin en pointe bien en arrière du coup, dans le combat de la manif pour tous. Je voulais savoir si, dans les chiffres d'accueil du refuge, on voit aussi que, si Lyon est particulièrement une ville plus touchée que d'autres, que celles qui ont été mentionnées.
En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que sur les deux premières années où on a existé, on avait beaucoup de jeunes qui venaient d'ailleurs en France. Et c'est vrai que sur l'année 2013, dans notre rapport d'activité, la majorité des jeunes venaient de Lyon. Donc, alors, il y a effectivement l'effet aussi de notoriété, parce qu'on a fait un travail de communication, donc on est aussi mieux identifié par la population locale. Mais je pense aussi qu'il y a pu y avoir un impact lié au contexte. Avec les manifs pour tous.
Bien, merci Myriam, merci Julie d'être venue nous parler du refuge. Vous restez bien sûr avec nous pour la partie sortie. Et pour plus d'informations, votre site www.le-refuge.org.